Bonjour, je m'appelle Bruce Edwards et bienvenue à l'écoute de ce podcast du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, le dernier rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales indique que la croissance s'accélère, mais la dette publique augmente aussi.
On note que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne prévoient un ajustement budgétaire pour assurer la viabilité de leur dette. C'est important. Car si l'on s'appuie sur la tendance des trois dernières années, la dette deviendra insoutenable dans beaucoup de pays.
Yarek Wieczorek dirige la division des études régionales au département Afrique du FMI et a supervisé la rédaction de ce nouveau rapport. Donc, les dernières prévisions, il y a 6 mois seulement, étaient relativement moroses. Qu'est-ce qui a provoqué cette accélération de la croissance?
Cette accélération de 1,4% en 2016 à 2,6% en 2017 est en fait largement conforme à ce que nous avions prévu il y a 6 mois. Elle est plutôt modeste car elle tient à plusieurs facteurs ponctuels, tels que le rebond de la production pétrolière et une bonne récolte au Nigeria, et dans une moindre mesure aussi l'évolution en Afrique du Sud qui a enregistré un rebond dans l'agriculture et le secteur minier au début de 2017. De façon importante, la croissance tant au Nigeria qu'à l'Afrique du Sud reste faible et inférieure à la fois à la tendance du passé et à la croissance de la population. Néanmoins, il faut reconnaître que dans la région, des améliorations importantes ont été apportées à la politique économique à travers toute la région en ce qui concerne la stabilisation des déficits budgétaires et la réduction des déficits des comptes courants, ce qui a contribué à réduire les pressions sur les taux d'échange et l'inflation. En même temps, on note que l'environnement extérieur s'est amélioré, surtout avec une croissance plus élevée que prévue dans la zone euro et en Asie, deux destinations importantes pour les exportations des pays d'Afrique subsaharienne. Par conséquent, on pourrait s'attendre que la reprise en Afrique subsaharienne pourrait être plus vigoureuse que nous le prévoyons aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas encore de dynamique de croissance dans les pays tributaires des produits de base, et particulièrement dans les pays exportateurs de pétrole, de la CEMAC en Angola. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pays en Afrique subsaharienne qui connaissent la bonne croissance, une bonne croissance vigoureuse qui dépasse souvent 5%. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, et aussi de l'Éthiopie, du Kenya et de la Tanzanie. Et tous ces pays, d'ailleurs, aussi sont sont très importants moteurs de la croissance régionale.
Dont la croissance s'accélère, mais le rapport note que le revenu par habitant devrait baisser dans une douzaine de pays qui représentent presque la moitié de la population. Pourquoi les bienfaits de la croissance ne sont-ils pas partagés par un plus grand nombre?
La croissance que nous prévoyons pour la région, 2,6% dont je mentionnais, dans son ensemble, est à peine supérieure à la croissance de la population, estimée à 2,5% par an en moyenne. Donc, mathématiquement, il n'est pas surprenant qu'une grande partie des pays d'Afrique subsaharienne, dont certains très grands pays, le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, enregistrent une croissance négative par habitant. Pour certains, il s'agira de la deuxième année consécutive. En fait, selon nos estimations, le revenu national par habitant chutera en 2017 pour plus de 400 millions d'habitants dans la région. Bon, la baisse des prix des produits de base est un facteur important, mais aussi dans beaucoup de pays tributaires de ces produits, l'effet de ce choc a été aggravé par la réaction tardive ou inadéquate de la politique économique, retardant les réformes nécessaires à la reprise et à une augmentation des revenus. Enfin, le rebond a été rendu difficile aussi par le fait que de bon nombre de pays, touchés par la chute des prix des produits de base, en particulier des pays exportateurs de pétrole, l'économie n'est pas suffisamment diversifiée. En fait, leur orientation vers les produits de base a augmenté pendant les années d'expansion, ce qui affaiblit leur résilience en rétrécissant la base sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour rebondir face au choc.
Le rapport note aussi que la dette publique constitue un sujet de préoccupation croissant. Plusieurs pays sont appelés à réduire leurs déficits et leurs dépenses. Craignez-vous que cela signifie que les pays vont couper les programmes d'infrastructure et les programmes sociaux sur lesquels le FMI a beaucoup insisté ces dernières années?
La dette publique médiane dans l'Afrique subsaharienne est passée de 34% du PIB en 2013 à 48 % en 2016. C'est beaucoup dans 3 ans. Si cette hausse a été la plus prononcée dans les pays exportateurs de pétrole, pour les raisons déjà mentionnées, la dette a aussi augmenté dans la plupart des autres pays, y compris ceux qui continuent d'enregistrer une croissance vigoureuse, par exemple au Kenya. Heureusement, on note que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne prévoient un ajustement budgétaire à moyen terme pour assurer la viabilité de leur dette. C'est important, car si l'on s'appuie sur la tendance des 3 dernières années, la dette deviendra insoutenable dans beaucoup de pays. Par conséquent, il est très important que ces assainissements soient mis en œuvre en temps opportun. Cela réduira les risques d'ajustements brutaux qui peuvent être très nuisibles, permettra de réduire au minimum l'impact de l'assainissement sur la croissance et de préserver les dépenses prioritaires, comme vous avez mentionné, les dépenses, par exemple, dans les infrastructures ou les programmes sociaux essentiels.
4 pays sur 6 de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ou le CEMAC, reçoivent actuellement de l'aide du FMI. Pourquoi autant de pays de la CEMAC se retrouvent en difficulté?
Bon, les pays de la CEMAC ont beaucoup en commun, surtout parmi eux, 5 sont les producteurs de pétrole. Alors ça explique, parce qu'on a beaucoup parlé de l'impact des chocs pétroliers sur les pays pétroliers. Mais aussi, ils sont un peu en situation différente l'un des autres. Par exemple, 3 des 4 pays de la CEMAC qui reçoivent une aide du FMI sont des exportateurs de pétrole, mais parmi eux, 2, le Tchad et le Gabon, sont très dépendants du pétrole. Par exemple, eux, ainsi que la Guinée équatoriale, la République du Congo. Dans ces pays, 70% des recettes budgétaires et 90% des recettes d'exportation de biens proviennent du pétrole. Au moins en 2013, c'était comme ça. Et en même temps, alors pour eux, pour ces pays, il est clair que la baisse des prix du pétrole a constitué un revers très considérable. La situation est différente au Cameroun, qui est aussi un pays pétrolier, mais un pays beaucoup plus diversifié. Au Cameroun, le pétrole, c'est une source de seulement 30% des recettes budgétaires en 2013 et 45% d'exportation de biens. Alors ce pays, qui était aussi pays pétrolier, n'a pas été tellement influencé par les chocs pétroliers. En fait, le Cameroun connaît une bonne croissance, même maintenant. Et le 6e pays de la CEMAC, aussi qui est en programme avec le FMI, c'est la République centrafricaine. C'est un pays qui n'est pas exportateur de pétrole ni producteur de pétrole, mais c'est un pays qui sort d'un conflit prolongé. Son programme avec le FMI, c'est un programme typique qu'on a avec les pays qui sont en situation fragile, qui mis l'accent davantage sur le renforcement des capacités et la gestion des problèmes de développement à long terme.
Le rapport met beaucoup l'accent sur la diversification et il est clair qu'une augmentation de l'investissement privé sera utile à cet égard. Mais étant donné l'incertitude politique qui règne dans un si grand nombre de pays, comment est-il possible de rassurer les investisseurs?
L'incertitude politique est certainement un facteur qui influe sur la confiance des investisseurs, y compris dans les pays comme l'Afrique du Sud. Mais si l'on met de côté la politique et que l'on met l'accent sur l'aspect économique, les pays disposent d'un large éventail d'options pour diversifier leur économie. La bonne nouvelle, c'est que bon nombre de ces politiques renforceront en même temps la confiance des investisseurs. Que doivent donc faire les pays pour renforcer la diversification? L'expérience internationale montre que la stabilité macroéconomique est essentielle pour offrir un environnement où les entreprises peuvent planifier leurs activités et où les investisseurs se sentent à l'aise. En outre, cette expérience montre aussi que le développement du secteur financier, l'investissement dans la santé et l'éducation, l'investissement dans les infrastructures, ainsi que l'intégration commerciale au sein de la région et aussi avec le reste du monde, et aussi une réduction des inégalités de revenus, y compris entre les femmes et les hommes, faciliteront aussi la diversification. Il y a beaucoup de perceptions très général, l'Afrique subsaharienne est à la traîne sur le plan de la diversification et devrait tirer les enseignements des expériences d'autres régions, notamment de l'Asie de l'Est. Lorsque nous examinons les données de plus près, nous constatons en fait une grande diversité dans la région. Et il y a aussi beaucoup d'expériences de certains pays qui suggèrent différentes façons qui sont très efficaces de promouvoir la diversification économique. Ce qui est aussi très important, c'est que ces pays, qui sont mieux diversifiés que les autres, aussi ont connu une meilleure croissance et ils bénéficient d'une plus grande stabilité économique. Alors notre message, c'est qu'en appuyant la diversité, on aussi améliore les perspectives de la croissance à long terme.
C'était Jarek Wieczorek, chef de la division des études régionales au département Afrique du FMI, qui commentait le nouveau rapport sur les perspectives économiques régionales sur l'Afrique subsaharienne. Le papier intégral peut être consulté sur imf.org et vous pouvez écouter d'autres podcasts comme celui-ci sur soundcloud.com ou iTunes ou votre site préféré. Vous n'avez qu'à effectuer une recherche pour IMF Podcasts.